Amen. Vous pouvez vous asseoir et nous allons écouter le pasteur Vincent nous apporter justement cette parole.
Merci beaucoup pour les chants, pour tout le ministère d'accueil, tout le travail qui est accompli de semaine en semaine pour s'adapter à cette nouvelle vie. Je vous invite à chercher dans votre Bible le livre d'Ésaïe. Et c'est la dernière pour cette série. On fera une pause pendant l'été. On est arrivé au chapitre 38 et on va étudier 38 et 39 ce matin. C'est pas de trop grands chapitres, mais ils sont très forts et ils nous présentent encore ce Dieu très très grand, hein, comme on a chanté avec les enfants. Un Dieu qui est puissant en œuvre, qui guérit miraculeusement. Je vous propose de faire la lecture en Ésaïe, chapitre 38, donc les versets 1 à 8 pour commencer. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et il fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. « Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Et voici, de la part de l'Éternel, le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Je ferai reculer de 10 degrés en arrière avec le soleil, l'ombre des degrés qui est descendue sur les degrés d'Akaz, et le soleil recula de 10 degrés et les degrés où était, sur les degrés où il était descendu. Vous vous souvenez de la délivrance extraordinaire qui s'est passée juste avant, dans les chapitres 36 et 37. Il y a eu un miracle. Le roi Ézéchias s'est tourné vers Dieu et a imploré son secours et Dieu est intervenu et il a délivré la ville de Jérusalem qui était assiégée par l'armée assyrienne. Et on pourrait juste se dire à ce moment-là, mais voilà, c'est formidable, c'est voilà, fin de l'histoire. Depuis le commencement du livre d'Ésaïe, on dit il faut faire confiance à Dieu, il faut faire confiance à Dieu, il faut mettre sa confiance en lui. Et il va nous secourir, nous délivrer. Et qu'est-ce qu'il fait, Ézéchias? Il met sa confiance en Dieu, il est délivré de la main de l'invasion assyrienne. On pourrait juste dire, merci Seigneur, fin de l'histoire. On a trouvé un bon roi, un digne descendant du roi David qui fait confiance à l'Éternel. Mais au chapitre 38 et 39, on va voir que toute l'intrigue est relancée. Dans les chapitres 38 et le chapitre 39 commence avec ces mots. En ce temps-là, chapitre 39, en ce même temps. Et donc ça nous fait rappeler que cette histoire que l'on est en train d'étudier là, c'était une histoire qui s'est passée au même moment que cette histoire avec l'invasion assyrienne. Et si vous avez remarqué, il semble même que les événements des chapitres 38 et 39 soient antérieurs aux chapitres 36 et 37, ils sont passés avant. Regardez, au verset 6, il dit « Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie ». Donc là, à ce moment-là, la délivrance n'a pas encore eu lieu. Et donc la section qu'on vient de parcourir depuis le début de l'année là sur Ésaïe, traite la question « À qui allons-nous faire confiance ?» Mais la question ne se pose pas seulement en temps de crise, mais aussi comme un mode de vie. Est-ce que la confiance en Dieu, c'est un mode de vie ? On voit que ici le roi a mis sa confiance en Dieu dans des situations d'exception, dans des temps de crise. Ézéchias, il doit gérer ici deux grandes crises. La première, une crise publique ou politique avec cette invasion assyrienne. Et puis la deuxième, c'est plus privé, c'est personnel. C'est une maladie terrible, mortelle. Et imaginez, essayez juste de vous mettre à sa place. Il a entre 35 et 40 ans. Il doit gérer, il a une pression énorme. Il doit gérer une crise politique, une invasion. Il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes, de soldats qui veulent ruiner sa ville. Et en plus, à ce moment-là, il tombe malade. Imaginez, vous êtes dans votre situation professionnelle, dans une situation critique. Votre société ne sait pas ce que vous allez encore vivre ou si vous allez être licencié dans les prochains temps. Et puis à ce moment-là, votre médecin vous appelle et vous dit « Il faut que je vous voie, j'ai reçu vos analyses. » Vous allez le voir et là, il vous dit de but en blanc « Écoutez, monsieur, vous avez un cancer. Madame, vous avez un cancer. Vous n'en avez que pour quelques semaines à vivre. Maintenant, c'est le moment de mettre vos affaires en ordre. Vous allez mourir. » Waouh ! La réaction d'Ézéchias, c'est probablement celle que nous aurions eue, se tourne vers Dieu dans les larmes et il prie, il fait connaître sa prière dans les versets 2 et 3. Et au fond, on se rend compte ici que les crises dans notre vie nous poussent à nous tourner vers Dieu, à déposer nos fardeaux vers le Seigneur, nous poussent à le prier. À ce moment-là, Ézéchias, il n'a pas d'héritier. Alors la grande question, c'est qui va prendre la succession? La lignée de David va-t-elle s'arrêter? Et donc lui, il verse des larmes abondantes. Finalement, Ésaïe revient avec une bonne nouvelle et lui dit « Dieu t'a entendu, Ézéchias ?» Et dans sa miséricorde, il prolonge tes jours. Tu vas guérir. Tu vas connaître 15 ans supplémentaires. Et tu vas aussi connaître la délivrance de ta ville. Tous tes problèmes vont se régler. Et à ce moment-là, il lui dit, en plus, je vais te donner un signe. Ézéchias avait demandé un signe. On voit ça au verset 22, à la fin, le dernier verset du chapitre 38. Il avait demandé un signe et Dieu lui donne un signe. Et le signe qu'il lui donne, c'est ce qu'on voit dans les versets 6 à 8. Il va faire reculer l'ombre qui est sur le cadran, au fond, c'est un cadran solaire. Imaginez un poteau avec des marches qui descendent là. Le matin, l'ombre se réduit et puis l'après-midi, elle se rallonge. Et ça montre vraiment la fin de vie, quoi. Et l'ombre, elle est au bout, là. C'est comme si la vie d'Ézéchias, elle est à son terme. Tu vas mourir. Et puis là, l'ombre revient en arrière et lui donne encore 15 ans. Ça recule de 10 marches sur les cadrans du cadran solaire construit par Akaz. C'est intéressant que le signe soit lié à Akaz. Parce que vous vous souvenez, au début du livre, au chapitre 7, Akaz... Dieu lui dit « Demande un signe ». On lui dit « Non, non, je ne veux pas demander de signe. Non, non, je ne demande pas. Tu ne demandes pas de signe. Je vais quand même te donner un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Dieu avec nous. » Mais là, lui, Ézéchias, il demande un signe. Oui, oh Seigneur, dis-moi à quel signe je vais pouvoir être sûr de cela. Imaginez-vous, à sa place, une telle délivrance. Tous ces problèmes se règlent comme ça. Voilà qui a dû affermir de façon très sensible la confiance d'Ézéchias en Dieu. Et on peut vraiment imaginer que c'est une bénédiction que Dieu lui permet de connaître une délivrance dans sa vie personnelle pour qu'il puisse ensuite faire confiance à Dieu dans un domaine où il engage tout le pays, toute sa ville. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que Dieu a répondu tellement rapidement, au point même qu'on peut se demander, mais est-ce que Dieu a changé d'avis, quoi? Il lui dit, tu vas mourir. Il prie, il pouvait s'attendre à ce qu'il prie, et juste après, il lui dit, tu vas vivre 15 ans de plus. Est-ce que Dieu a changé d'avis? Est-ce que Dieu est changeant comme ça, ou capricieux? Non, bien entendu. Son désir est toujours le même, c'est d'affermir notre foi. D'affermir notre foi dans ce Dieu qui prend soin de nous. Et en fait, si vous considérez les épreuves de votre vie, c'est toujours dans cette perspective. Dieu veut montrer qu'il est capable de vous secourir, qu'il est puissant pour vous secourir, qu'il vous aime, qu'il veut prendre soin de vous, de sorte que votre foi s'affermisse en lui, de sorte que de jour en jour, vous puissiez lui faire confiance. Si Dieu guérit miraculeusement celui qui implore sa grâce, alors il peut aussi délivrer la nation qui implore son secours. Et en situation exceptionnelle, nous sommes poussés comme cela à fléchir nos genoux. Nous comprenons que nous ne pouvons rien faire. Dieu seul est capable d'intervenir. Dieu seul est digne de notre confiance. Notre Dieu, il est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu qui ouvre la mer Rouge pour son peuple. Il est le Dieu qui fait jaillir l'eau du rocher miraculeusement. Il est le Dieu qui fait descendre le pain du ciel. Il est le Dieu qui répond à la prière de Moïse là sur la montagne pendant que Josué est en train de combattre contre Amalek. Oui, il est le Dieu qui répond à la prière. Il est le Dieu qui nous a permis d'entrer dans ces locaux. Il y a 5 ans à peu près, on recevait l'autorisation d'ouvrir les locaux. Malgré le fait qu'on nous avait dit que jamais il y aurait une église dans ces lieux. Ouais, Dieu nous met dans des situations de crise pour qu'on puisse éprouver vraiment sa fidélité, combien il est digne de confiance. On devrait se souvenir de cela. Nous avons un Dieu qui répond à la prière. On a lu tout à l'heure le psaume 34. Il parle de ce que l'Éternel est près de ceux qui l'invoquent. Il répond à la prière de celui qui crie à lui. Les crises sont là pour nous permettre d'expérimenter la fidélité de Dieu et son secours. Et fort de cette expérience, Ézéchias, il écrit un merveilleux cantique dans les versets 9 à 20. Je trouve ça, on devrait prendre cette habitude quand Dieu opère des délivrances miraculeuses dans nos vies. Écrivez un cantique, écrivez votre louange à Dieu, dites combien vous êtes reconnaissant envers le Seigneur. Dans les versets 10 à 14, il décrit sa situation. Quelle était sa détresse? Dans le verset 10, il dit « Quand mes jours sont en repos, je dois m'en aller. Aux portes du séjour des morts, je suis privé du reste de mes années. » Il est déconcerté. Et au fond, là, je trouve que c'est très humain ce qu'il dit. Vous avez remarqué, il dit « Je suis privé du reste de mes années. » Mais est-ce que Dieu nous doit 80 ans? Non, Dieu ne nous doit rien. Enfin, s'il nous doit quelque chose, il préfère ne pas nous le payer parce que il nous doit la mort, il nous doit la condamnation. Dieu ne nous doit rien. Et là, il mesure aussi la brièveté de sa vie. Au verset 12, il parle de ce que sa demeure lui est enlevée et transportée loin comme une tente de berger. Je sens le fil de ma vie coupé comme par un tisserand qui me retrancherait de sa trame. Voilà, la vie, c'est d'une brièveté. Et puis, il exprime sa détresse dans une prière. Elle est tellement simple, je trouve. Verset 14. Ô Éternel, je suis dans l'angoisse. Secours-moi. Et dans les versets 15 à 20, il décrit la grâce de Dieu et son désir sincère de le suivre. Regardez le verset 15. Que dirais-je? Il m'a répondu, il m'a exaucé. Il ne sait pas comment expliquer la chose. Qu'est-ce que je ne peux pas vous dire autrement? Il a juste entendu ma prière, il a répondu. Il est merveilleux, mon Dieu. Et du coup, il dit, je veux le suivre tous les jours de ma vie. Je veux que ma vie serve à le glorifier. Je me rends compte que, je marcherai humblement jusqu'au terme de mes années après avoir été ainsi affligé. Je me souviens d'un frère. tout jeune dans la foi, il avait passé le brevet de pilotage. Il a pris un avion, je crois que c'est un de ses premiers vols. Et puis là, il s'est retrouvé dans une situation critique. Il a pu mourir à bord de son avion. Il s'est dit, je suis dans les nuages, je sais qu'il y a des montagnes, je vais juste m'écraser. Et puis, miraculeusement, il y a eu une éclaircie là, juste pour lui indiquer le chemin, et il s'est posé. Il serve à le glorifier tout entière. Je marcherai humblement jusqu'au terme de mes années après avoir été ainsi affligé. Verset 16, regardez ce qu'il dit. Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elles que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends la vie. Tu me rends à la vie. Là, il a maintenant une juste perspective. Au verset 17, il dit, « Voici, mes souffrances même sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse de la destruction, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. » Vous vous souvenez, la bonté de Dieu l'a conduit à un sentiment plus profond de ses manquements. Quand il veut invoquer le secours de Dieu pour être guéri, au verset 3, il a fait mention de sa fidélité, de son intégrité, à présent que la grâce lui a été faite, il parle de tous ses péchés. Il a le sentiment qu'il n'a pas reçu ce qu'il méritait. Il est confondu par la bonté de Dieu. Et du coup, verset 20, il dit, « L'Éternel m'a sauvé. Nous ferons résonner les cordes de nos instruments tous les jours de notre vie dans la maison de l'Éternel. » Oui, je veux célébrer la gloire de Dieu pour cela. Et j'aime beaucoup, il dit « nous ferons résonner ». Là, ici, il est en train de s'associer à la multitude des rachetés qui célèbrent la grandeur de Dieu. Il n'est pas le roi au-dessus des autres, non, il est simplement un racheté de l'Éternel. Et il veut servir humblement et louer Dieu humblement. Comme il l'avait déjà dit au verset 15, « je marcherai humblement devant mon Dieu ». Voilà tout ce que l'on peut écrire et dire lorsque l'on sort d'une crise. Miraculeusement secouru par le Seigneur. Je crois que Ézéchias est vraiment sincère à ce moment-là. C'est vraiment son désir, le désir de son cœur de marcher humblement avec son Dieu et de glorifier Dieu. Mais voilà, chapitre 39, je vous propose de lire la suite, versets 1 à 4. « En ce même temps, Merodach Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias parce qu'il avait appris sa maladie et son rétablissement. Ézéchias en eut de la joie. Il montra aux envoyés le lieu où étaient ces choses de prix, l'argent et l'or, les aromates, l'huile précieuse, tout son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur fasse voir dans sa maison et dans tous ses domaines. Ésaïe le prophète vint ensuite auprès du roi Ézéchias et lui dit « Qu'ont dit ces gens et d'où sont-ils venus vers toi ? » Ézéchias répondit, « Ils sont venus vers moi d'un pays éloigné, de Babylone, t'imagines ?» Verset 4, Ésaïe dit encore, « Qu'ont-ils vu dans ta maison ? » Ézéchias répondit, « Mais ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai fait voir. » Ésaïe dit à Ézéchias, « Écoute la parole de l'Éternel. » Des armées. Voici des temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi et que tu auras engendré pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Ézéchias répondit à Ésaïe, la parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. Car, ajouta-t-il, il y aura paix et sécurité pendant ma vie. Voyez-vous, à présent, tout va bien pour Ézéchias. Tout va pour le mieux. Et là, on réalise que toute sa confiance en Dieu, toute sa dépendance envers lui, tout son désir de marcher humblement devant la face de l'Éternel ont disparu. Ézéchias n'est finalement pas l'homme qu'il souhaitait être au chapitre 38, verset 15. Il n'a pas eu la pensée de consulter Dieu lors de la visite des Babyloniens. La flatterie a eu raison, au fond, de sa foi. En 2 Chroniques 32-25, il y a un passage parallèle et qui nous fait une précision. Il est dit que « Mais Ézéchias ne répondit point aux bienfaits qu'il avait reçus, car son cœur s'éleva, il devient orgueilleux. » Et en fait, c'est ça le drame d'Ézéchias. N'est-ce pas terrible? Nous aussi, nous sommes capables de faire confiance à Dieu dans des situations d'urgence. Mais nous avons tellement de mal à faire de la confiance en Dieu notre mode de vie, notre manière de vivre au quotidien. Qu'en est-il du faire? Comment devrions-nous réagir lorsque notre vie suscite un intérêt de la part de notre entourage, lorsque tout semble nous réussir? Qu'en est-il du faire? Que devrions-nous faire? Il y avait une occasion ici merveilleuse pour Ézéchias de dire à tous ces admirateurs venus d'une terre lointaine, de leur dire, mais la vedette, c'est pas moi. La vedette, c'est Dieu, c'est lui qui m'a secouru. C'est lui qui me l'a délivré des Assyriens, c'est lui qui a sauvé ma vie. Il aurait pu faire ce qu'il voulait faire au verset 20, sortir sa guitare et leur chanter les louanges du Seigneur. Verset 16, il aurait pu dire, « Oui, Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est elle, c'est par elle que je respire encore. Tu m'as rétabli, tu me rends à la vie. Je ferai retentir mes louanges. » Il aurait pu donner gloire à Dieu. Mais voilà, lui comme nous, sommes trop souvent assoiffés d'honneur, de reconnaissance, de gloire. Et c'est pourquoi faire confiance à Dieu au quotidien, lorsque la vie est plus simple, lorsqu'on a le sentiment de gérer la situation nous-mêmes, faire confiance à Dieu nous est plus difficile. Faire confiance à Dieu, c'est reconnaître que l'on a toujours besoin de lui. Dans les proverbes, y a un des proverbes qui dit « Ne me donne pas trop de richesses de peur que je ne t'abandonne. » Finalement, des fois, on est maintenu dans une situation difficile. Cette situation difficile nous pousse à venir devant Dieu jour après jour, jour après jour. Et c'est cela qui nous garde. C'est ça qui nous préserve. On voudrait tellement vite en être débarrassé. Faire confiance à Dieu, c'est vraiment reconnaître qu'on a besoin de lui avec la même urgence, la même gravité dans notre quotidien que dans les situations de crise de nos vies. Au lieu de cela, il n'a aucune référence à l'Éternel durant la visite de la délégation babylonienne. Ce qu'Ézéchias présente dans une joie jubilatoire, quand il lui dit « Mais d'où viennent-ils ces gens-là ? Mais ils viennent d'un pays éloigné, t'imagines, ma renommée s'étend au loin ! Tout le monde me regarde, je suis un héros pour... » Et là, il dit, j'ai tout montré, il parle des choses qui sont à lui. Tout son arsenal, tous ses trésors, sa maison, ses domaines. Et les Babyloniens repartent en disant, waouh, Ézéchias, il est blindé d'or. Et puis, il se croit tout puissant. Alors Ésaïe, qui étonnamment n'a pas été présenté à la délégation, lui qui pourtant était si présent dans la crise politique, si présent dans la maladie d'Ézéchias, il lui dit, « Ah, tu es flatté par le fait que les hommes se soient intéressés à tes richesses et à tes biens. Bah, tu ne vas pas être déçu. Ils vont revenir vraiment intéressés et ils vont tout te prendre. » Wow. Remarquez comme il rappelle aussi habilement hein, dans le verset 6, voici les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Et je trouve ça une précision intéressante. Et il lui fait remarquer que tout ce qu'il possède, tout ce qui est dans sa maison, tous ses trésors, ce sont ses pères qui les ont amassés. Et voilà une chose qui peut vraiment nous secourir quand on a tendance à prendre la grosse tête ou quand tout va trop bien dans notre vie. Nous ne nous sommes pas faits tout seuls. Nous avons eu des parents qui nous ont précédés, qui nous ont éduqués, qui ont pourvu à nos besoins, qui nous ont légué des biens, des valeurs. Nous avons eu des collaborateurs sans lesquels nous n'aurions pas accompli un dixième de tout ce que nous avons fait. Faire confiance à Dieu, faire de la confiance à Dieu, notre mode de vie, c'est rendre grâce sincèrement à Dieu pour toutes choses et en toutes circonstances. Vous voulez savoir ce qui va nous garder confiants? Mais c'est vraiment là, cette reconnaissance continuelle, permanente, pour tout ce que Dieu a accompli envers nous. Verset 7, elle lui dit, tu t'intéresses à Babylone? Eh bien, tes fils auront l'occasion de s'y rendre et de découvrir les palais, mais comme eunuque, comme esclave. Au verset 8, je trouve assez triste, il dit, Ézéchias répondit, la parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne, on a le sentiment qu'il s'y soumet, car, ajouta-t-il, il n'y aura paix et sécurité pendant ma vie. Mais je trouve cette dernière phrase tellement triste. Ah oui, peut-être il est consolé qu'il va avoir des fils, mais tristement, il dévoile un cœur qui est égoïste. Il y aura paix et sécurité pendant ma vie et après moi le déluge. Je voudrais faire une application à tout cela, à ces deux chapitres, pour nous chrétiens. Une vérité importante, c'est qu'il y a pire que la mort. Il y a pire que la mort. Don Carson, le théologien, dans son livre « Jusque à quand » écrit, après que son médecin lui ait annoncé une maladie relativement sérieuse, au point qu'il ait pu réfléchir un peu à la perspective de sa propre mort, il écrit voici, ceci. « Il y a pire que la mort. Je ne sais pas combien de fois j'ai chanté ces paroles de cantique. Ne me laisse jamais, au grand jamais, trahir mon amour pour toi. » Pourtant, c'est à chaque fois avec un très grand sérieux que je les chante, comme une prière que j'adresse à Dieu de tout mon cœur. Je préférerais mourir que de finir en mari infidèle. Je préférerais mourir que de démentir par une vie dissolue tout ce que j'ai enseigné dans mes livres. Je préférerais mourir que de renier l'Évangile. Dieu sait qu'il y a dans mon passé beaucoup de choses dont j'ai profondément honte. Je ne voudrais pas que ces péchés se répètent et déshonorent Christ dans les années à venir. Il y a des choses bien pires que de mourir. Malheureusement, au cours des 15 années qui ont suivi, les 15 années de sursis, un seul acte dicté par un orgueil insensé a coûté à Ézéchias sa réputation de roi intègre qu'il s'était forgé jusque-là. C'était un excellent roi jusqu'à ce jour. Plus grave encore, cet acte a eu des répercussions catastrophiques sur l'avenir de la nation. Faire confiance à Dieu, c'est reconnaître notre fragilité, notre tendance à nous éloigner de lui, et c'est lui demander de nous garder. Comme cette prière de ce cantique-là que cite Don Carson, « Ne me laisse jamais, au grand jamais, trahir mon amour pour toi. » Pourquoi les chapitres 36 et 37 ne concluent pas cette section au fond? Pourquoi finir avec cette triste prophétie de ce qu'un jour Babylone va venir et raser Jérusalem? C'est sûrement parce que Babylone remplit désormais, dans les chapitres qui vont suivre, l'horizon du livre. Ésaïe va encore développer les leçons de confiance dans les promesses de Dieu, dans un contexte où la délivrance n'est pas expérimentée. La grande question de cette première partie du livre d'Ésaïe, c'est qui sauve? Qui est digne de confiance? Akaz? Non. Les nations? Oh non. L'Égypte? Non. Ézéchias? super roi qui fait confiance à Dieu, qui a fait des réformes extraordinaires, qui détruit les idoles, qui rétablit la Pâque. Le roi qui prie l'Éternel face à la maladie et face à la menace assyrienne et qui est exaucé. Non. Ce roi, aussi bon soit-il, est mortel, comme le montre le chapitre 38. Et puis, il est faillible, comme le montre le chapitre 39. Il est sujet à l'orgueil, à l'égoïsme. Mais si que nous recherchons, le roi que nous attendons, devrait être meilleur que cela. Et c'est lui qu'Ésaïe va présenter dans les chapitres 40 à 66. Mais ça, ce sera pour une autre saison. Mais aujourd'hui, réfléchissons, notre confiance en Dieu est-elle exceptionnelle pour les jours de crise, de maladies graves, pour les jours de pandémie, ou est-elle un mode de vie, signifiant notre totale dépendance envers Dieu, notre recours à lui dans les choses du quotidien? Est-ce que notre confiance s'exprime justement par une louange, une reconnaissance, une marche humble qui lui rend gloire? Je suppose qu'on n'est pas meilleur qu'Ézéchias. Seul Jésus a marché dans cette vie d'une manière parfaite, avec une confiance parfaite, une dépendance totale envers son Dieu. Mais nous pouvons, en soupirant après cette confiance, dire comme Ézéchias, « Mes yeux s'élevaient languissants » dans le verset 14, « vers le ciel. Ô Éternel, je suis dans l'angoisse, secours-moi. » C'est peut-être pas l'angoisse de la mort, mais la crainte salutaire de nous éloigner de lui, dans laquelle on dit, « Seigneur, si toi tu ne me gardes pas, je m'éloignerai de toi. » Et de réaliser combien on est tellement fragile, dépendant de lui, et au quotidien de dire, « Seigneur, quel que soit le jour que j'ai là, j'ai besoin de le vivre dans la dépendance de toi. Garde-moi. » Vous savez quoi? Il le fera. Il a promis. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, il la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Amen. On va chanter un dernier cantique, car Dieu a tant aimé le monde, il nous a tellement aimés, qu'il va aussi nous garder jusqu'à la fin. Juste avant que l'on s'incline dans la prière. Seigneur notre Dieu, nous te remercions de tout notre cœur parce que on a le privilège de pouvoir te connaître. Seigneur, on a expérimenté chacun dans des situations de crise combien tu es un Dieu qui est fidèle, qui nous secourt, qui nous délivre. Seigneur notre Dieu, nous te prions que fort de ces expériences, on apprenne à vivre, Seigneur, au quotidien dans une relation de confiance, reconnaissant que tout don parfait, toute grâce excellente nous viennent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Seigneur, nous voulons reconnaître que c'est toi seul qui as la capacité de nous garder. Nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes. Nous serions comme Ézéchias, livrés à nos propres penchants, Seigneur. Aussi, nous voulons t'implorer, jour après jour, que tu viennes nous secourir, nous garder. Ne nous laisse jamais, au grand jamais, trahir notre amour pour toi. Seigneur, garde-nous, nous t'en prions. Amen.